Bienvenue dans l'étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur de RDWA. On est sur les ondes sur 107.5. On espère que vous êtes bien ce dimanche matin, avec un petit caf tranquille, prêt à écouter l'émission. Alors on est trois aujourd'hui, ce soir, hein, nous on enregistre le soir. Donc on est en décalé, mais voilà. Il y a Axel et Rémi qui est là.
Bonjour tout le monde.
Bon matin.
Et Pierrick, du coup. Et du coup, aujourd'hui, dans cet épisode 35, on va parler un peu du ciel ce soir, comme toujours, voir un peu ce qu'on voit en ce moment sur les étoiles et les planètes. Après, on fait un petit point d'actu, une petite pause, et on va parler après de notre modification de télescope
artisanal.
Artisanal, on s'est bien amusé à modifier un télescope et à le rendre transportable.
Excellent. Alors je commence avec le ciel du soir. Si je commençais par le ciel du matin, pour parler des planètes en premier, puisqu'en ce moment on a les planètes au matin, Saturne se lève vers 3 heures je crois, peut-être même plus tard. Mais c'est vraiment au matin, aux premières lueurs du jour.
C'est tôt. Hein.
Qu'on peut, ouais, c'est à 4 heures.
4 heures,
ouais. 4 heures jusqu'au lever du jour. On a Saturne qui se lève en premier, elles sont toutes alignées de toute façon, puisque toutes les planètes du système solaire orbitent quasiment sur le même plan. Et en ce moment, elles sont visibles presque toutes, je crois, oui, toutes. À part celles qu'on ne voit pas à l'œil nu, je rappelle Uranus et Neptune qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Mais donc on a Saturne qui se lève dans le Capricorne, suivi de Jupiter qui brille beaucoup, elle-même suivie de Mars. Et Vénus arrive derrière, et je crois qu'il y a même eu Mercure ces derniers jours.
Même Mercure en ce moment. Ouais, c'est assez exceptionnel.
Ouais. Ouais, c'est
qui ferme le bal et le soleil qui arrive.
Un gros alignement qui n'est pas si fréquent.
Et puis il y a une date notable autour du 24 juin, avec la Lune, juste avant la nouvelle Lune. Quoi. On l'aura au petit matin aussi.
La Lune se joint au balai céleste.
Ouais.
Le 24 juin. 4h du matin.
Juste avant le lever du soleil, si on veut avoir Mercure. Mais ça peut commencer avant.
Ouais. Ah, ouais.
Rendez-vous est pris. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On a la Voie lactée qui commence à arriver, le triangle d'été. Je peux vous parler des premières étoiles que vous apercevez le soir, si l'apéro dure un peu, si vous rentrez tard du travail, ou simplement si vous êtes dehors et que vous profitez du ciel qui se lève, vous apercevrez en premier. Il y a de grandes chances que la première que vous voyez, ce soit Arcturus, quasiment au zénith, en direction de l'ouest plutôt, sud-ouest. Arcturus qui est derrière la Grande Ourse qui apparaîtra plus tard, mais avant on aura Vega, on a Capella, on a Castor et Pollux qui se couchent derrière le soleil
à l'horizon.
Ouais, il fait encore un peu jour et on aperçoit Castor et Pollux.
Les Gémeaux, hein,
Gémeaux.
On est sous le signe du Gémeaux justement.
Ouais. Ouais. Et Capella du Cocher à leur droite qu'on aperçoit aussi juste après le coucher. Et puis, et au matin d'ailleurs, avant que les planètes ne sortent, enfin à peu près en même temps, Capella revient très tôt en fait, elle passe très peu de temps derrière l'horizon.
Ah ouais, elle remonte.
J'ai fait une animation, une veillée la semaine dernière où je l'ai vu se coucher et se relever. D'ailleurs, on se rapproche dangereusement du 21 juin, du solstice d'été.
Attention.
le jour le plus long de l'année. Et c'est vrai qu'on a observé avec mes collègues astronomes que le soleil se couche à l'ouest, mais un petit peu nord-ouest, et il se lève, les premières lueurs du jour sont au nord et pas vraiment à l'est. On voyait la polaire et les premières lueurs à l'horizon, pas très loin à droite.
Ouais. Okay.
Voilà le solstice d'été.
Il y a le scorpion qui est sympa aussi en ce moment.
Oui, au côté sud. On a le scorpion et le sagittaire qui sont bien visibles, surtout le scorpion, là entier, on peut voir la queue avec l'étoile Shaula.
Et Antares.
Et Antares, bien sûr, qui rougeoie fortement à l'horizon sud.
Bien bas, faut monter un peu.
Et puis, pour parler d'une constellation aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'une constellation assez grande mais assez peu visible. Mais il y a de bonnes façons de la trouver, assez simple, puisque je vais parler de la constellation du Dragon, qui est la huitième, elle est dans le top 10 des plus grandes constellations, des 48, même des 88 constellations, en prenant l'hémisphère sud. Et pour la trouver, c'est simple, on part de la Grande Ourse, si vous cherchez la grande ourse, c'est cette grande casserole, je pense que tout le monde la connaît. Et de là, on peut trouver la petite ours et l'étoile polaire. Je rappelle, on part des deux étoiles du bout de la casserole, à l'opposé du manche, on monte. Et la prochaine brillante, c'est l'étoile polaire, qui marque, elle, le bout de la queue de la petite ours, qui est une casserole aussi, voilà, qui s'enroule, elles sont peut-être beige l'une et l'autre. Et donc, entre ces deux casseroles, serpente le dragon, qui a d'ailleurs été souvent appelé le serpent, je crois qu'il s'appelle Ophis en grec, qui a donné ensuite Ophusius, le serpentaire. Et donc le dragon, il part du bout de cette ligne imaginaire entre l'étoile polaire et la grande ourse, et Doubet, l'étoile de la grande ourse. Ça part de là, et puis ça tourne autour de la petite ours, ça s'enroule autour, et puis ça refait un demi-tour pour finir au-dessus de la queue de la grande. Avec la tête du dragon, il faut imaginer plutôt un dragon comme dans les défilés chinois.
Avec une grande queue.
Ouais,
très
ça.
Long. Ouais. Mm-hmm.
Je rappelle, il a été appelé le serpent. Et il a été quand même, malgré que ses étoiles soient pas brillantes, assez repéré et je perds mes mots, j'allais dire cartographié, dans les consignés, voilà, c'était le mot que je cherchais, dans les registres des anciennes civilisations et dans les anciennes mythologies. Ça a été pour les Sumériens la déesse Tiamat. Ça a été même une constellation représentée dans l'Église catholique, où ça représentait le dragon que tua Saint Georges dans l'histoire catholique.
Le dragon qui tua Saint Georges.
Non, que Saint Georges tua. Pardon.
Ah
que
oui,
que tua
tu...
Saint Georges.
Ah, okay.
Je me suis mal exprimé.
Pourquoi il a fait ça?
Je sais pas. Il devait faire des choses pas très catholiques. Le dragon, c'est le cas de le dire. Et puis, bien sûr, dans la mythologie grecque, ça fait partie des 48 constellations de Ptolémée. C'est parfois le dragon qui attaque Athéna dans sa guerre contre les dieux de l'Olympe, entre les dieux de l'Olympe et les titans. Et puis, c'est aussi parfois le dragon tué par Cadmos à côté de Thébès. Voilà.
Ok.
Pour cette grande constellation. Et dans les objets qu'on peut observer, ça parle d'un animal aussi. Il y a deux objets que j'aime bien dans cette constellation, assez petits. C'est pas le genre d'objet que vous pourrez trouver aux jumelles ou avec une petite lunette. Il faut commencer à voir, je pense, un 200 mm pour pouvoir observer une galaxie qui s'appelle NGC 5907, mais qu'on appelle aussi la galaxie de la griffe de chat. C'est une galaxie spirale que l'on voit par la tranche, et donc qui dessine un petit trait de fuseau, voilà, la griffe de chat, et qui se trouve près de la courbure autour de la petite ours. Il y a trois étoiles, d'ailleurs, qui font partie des étoiles assez brillantes de la constellation, parmi les plus brillantes de cette constellation, et d'Aziche, qui est là, et à côté, on a cette galaxie. Et puis plus haut, au niveau plutôt de la queue de la petite ours, là, on peut trouver l'œil de chat, encore une fois le chat, qui est une nébuleuse planétaire. Ça fait partie des photos emblématiques de Hubble. Cette
grande focale.
Ouais, c'est ça, cette nébuleuse. Voilà, qui est très chouette. Pareil, en visuel, c'est compliqué. En photo, je pense que c'est une super prise. Je ne sais pas si tu l'as déjà tenté.
Non, avec moi, les focales que j'ai, non.
Non.
Bah, disons qu'elle apparaîtrait comme
un petit
point au milieu de la photo.
Ouais.
En croppant beaucoup. Voir, mais c'est plutôt destiné à des focales de 2 à 3 mm. Quoi.
Ouais.
En visuel, même au 250, on la voit pas très peu.
Si, on la chope un peu. Ouais.
Ok.
Mais. Là où je l'ai observé de la plus belle manière, c'était dans un certain 635 Dobson, qui sera présent pas très loin de chez nous. On en reparle juste après avoir fait un point sur l'actu astronomique. Voilà, pour le dragon, le ciel du soir.
Super.
Je fais le tour.
Super.
Merci Axel.
Je vous en prie.
Du coup, on peut continuer cette émission en parlant d'actualité.
Ouais.
On commence par l'actualité universelle. Avec la SLS qui est sortie du hangar. Alors la SLS, c'est Super Launch System.
Ouais, c'est ça.
C'est la nouvelle fusée des Américains, la nouvelle fusée pour aller sur la Lune. L'énorme fusée, ouais. C'est vraiment un monstre. C'est comme elle est.
C'est la descendante de la Saturn V.
Voilà, donc la Saturn V, c'est la fusée qui a emmené les premiers êtres humains sur la Lune du programme Apollo. Mm-hmm. Et la Saturn V, elle est déjà 110 mètres de haut. Celle-là, elle est pas bien plus haute, je crois. Mais bon, c'est déjà énorme pour une fusée.
Ouais, déjà.
Mais je crois qu'elle est 20% plus puissante. Et oui. Ça a l'air de rien comme ça, mais je crois que c'est énorme.
Ouais, c'est-à-dire qu'on peut amener plus de choses.
Voilà, ouais. C'est-à-dire qu'on peut transporter plus de poids jusqu'à la Lune.
C'est ça.
Partir plus vite pour aller plus loin.
Ouais, c'est ça. plus de carburant, optimiser les moteurs. Mmh. Faut savoir que la technologie, elle a changé, mais quand même pas non plus de ouf, hein, depuis les années 70 et 60 même.
Ouais.
Et du coup, voilà, ils commencent à la sortir du hangar, à faire plein de tests. En tout cas, elle est montée, elle est en bonne voie, et ils ont même ressorti les énormes chenilles pour transporter la fusée de l'énorme hangar,
ouais, de
pour la ranger dedans, ces trucs énormes.
L'atelier au pas de tir.
Voilà, de l'atelier jusqu'au pas de tir, il y a des espèces d'énormes chars.
Les
mêmes qu'ils ont utilisés dans les années 60.
Ok.
C'est les mêmes.
Pour la Saturn V.
Voilà, ouais, c'est les mêmes chars qui sont un peu...
Qui roulent à peu près à 2000 km/h.
Oui, je crois que c'est ça.
Ouais, je crois qu'il faut 4 heures, je sais pas combien de temps.
Mais pour faire les quelques centaines de mètres.
Ouais. C'est un jeu d'équilibre.
Et oui.
C'est impressionnant, quand même.
Ouais.
Ouais, c'est clair. Prouesse ingénierie balèze, quoi.
Et puis, le fil rouge James Webb, la NASA a annoncé que les premières images du James Webb sortiraient le 12 juillet. On aura peut-être enregistré une nouvelle émission d'ici là, mais voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir. Je sais pas quelle est la cible. Je crois l'avoir lu, mais je ne me souviens pas.
Ok. Super. Du coup, on peut enchaîner avec l'actualité plus locale.
Ouais.
Et le 2 juillet.
Alors, le 2 juillet.
Le 2 juillet.
Sortez vos agendas.
Ouais. On vous propose une soirée, une animation où on sera tous les quatre. Donc, Axel, Rémi, Fred et moi, Pierrick. Où on vous apprend à vous servir de votre télescope, on vous montre un peu comment ça marche, les différents systèmes.
Voilà, soit vous avez un télescope, vous voulez en apprendre plus, savoir vous en servir de la meilleure façon, ou alors vous hésitez à en acheter un, vous voulez découvrir un peu qu'est-ce qui se fait sur le marché.
Ouais.
Et on proposera une petite gamme de
ou simplement
d'instruments.
Vous êtes curieux, vous avez envie de voir comment ça marche.
Voilà.
Et puis s'il y a des demandes particulières, vous pouvez nous les adresser aussi.
Ouais. Bien sûr. Donc ça se passera le 2 juillet à Recoubeau, et c'est sur inscription, il faut s'inscrire alors soit sur le mail de l'émission.
Donc astro-rdwa@protonmail.com.
Ouais. Ou par téléphone, vous pouvez me joindre au 06 31 14 75 69. Et voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis à nous contacter si vous avez besoin de plus d'infos.
La soirée est à 25 euros.
Il ouais.
Faut amener un repas tiré du sac.
Exactement.
Ça se passe à Barnave.
À Recoubeau.
À Recoubeau.
Ou entre les deux, je crois.
Ok, bon, par là-bas.
pas très loin. Et ça sera de 17h à tard dans la nuit.
Ouais, ouais, ok. Ouais.
Avec une partie.
Première partie.
Explicative, théorique. Ouais. Deux jours, quoi.
Ouais.
Avec matériel.
Quelques documents, voilà, pour que vous ne partiez pas les mains vides.
Comme connaître les cartes.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Voilà, pour dégrossir un peu tout ça. Voilà, bienvenue.
Donc, c'est le 2 juillet.
Voilà.
Et puis l'autre rendez-vous.
C'est le 23 juillet.
Ouais.
Et là, on fait une grosse soirée.
Alors, là, tout le monde est le bienvenu.
Ouais, voilà, c'était plus en mode observation pure. Ouais.
Venez découvrir le ciel. Ça sera à Marignac.
Voilà, c'est à Marignac en Divois, à l'aire de loisirs, là.
Exactement.
On sera plus nombreux aussi, il y aura plus d'instruments.
Oui.
Des conférences, des expositions un peu. Tout un programme.
Ouais.
On va bientôt communiquer.
Ouais, on aura au moins 3 conférences, une sur la Lune, une sur la pollution lumineuse. Une sur l'histoire de l'astronomie, on pourra observer le soleil dans l'après-midi. Et puis le soir, évidemment, observation au télescope, il y aura beaucoup d'instruments.
Il y a
un tour du ciel
à la nuit tombée, donc
ouais, à l'œil nu.
22-23 heures.
Ouais, au moins ouais, 22-30 presque.
Ouais, 22h30 où Fred y fera un tour du ciel. Ça, c'est un bon moment, c'est sympa. Ouais.
Ouais. Ouais.
Si vous voulez venir en famille, c'est à ce moment-là, quoi.
C'est fait pour.
Enfin, vous pouvez venir avant, mais.
Oui. Et oui, il y aura aussi des jeux et des ateliers dans l'après-midi.
Oui.
Pour les enfants notamment, mais tout le monde peut participer. Et le prix d'entrée, il est libre. Vous donnez vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez rien donner, vous donnez rien. Si vous le donnez en partant, vous donnez en partant.
Ouais, ouais.
Un chèque en blanc, on prend.
peut venir avec une tenue un peu chaude, puisque même l'été, les nuits peuvent être froides par chez nous. Et puis, de préférence, avec une lumière rouge, si vous avez ça.
Une frontale à lumière rouge, ça c'est top.
Ouais.
Sans arriver en plein phare, à proximité.
Oui, ouais, ça ouais. sera indiqué. Oui.
Donc voilà, rendez-vous le 2 juillet si vous voulez apprendre à vous servir de votre télescope, un peu en mode intimiste entre nous. Et le 23 juillet, si vous avez juste envie de découvrir les étoiles et ce qui se passe au-dessus de vous.
Voilà, passez un bon moment. Est-ce qu'on a précisé qu'il y aura une petite restauration, enfin de la restauration sur place et une buvette?
Ouais.
Vous aurez tout ce qu'il faut pour passer un bon moment avec nous.
Rémi, il y aura...
on aura une exposition des photos de Rémi aussi. Vous pouvez découvrir les sur les podcasts de l'émission.
Il y aura aussi la projection en direct.
Oui, on va faire un peu de visuel assisté, oui.
Donc oui, ça c'est ce qu'on observe au télescope directement projeté
voilà,
sur un écran.
Le télescope va être pointé et puis on va faire des images de ciel profond, hein. Des petites galaxies, des nébuleuses. Et puis après peut-être que quand les planètes se lèveront, on pourra faire un peu de prise en direct.
Ouais. Ah oui,
ouais, ouais.
Vidéo. Ouais.
Donc c'est vraiment tout public, venez en famille, comme vous voulez, pas de problème.
Vous êtes les bienvenus.
Voilà,
je crois très bien.
On a fait le tour.
On peut faire une petite pause musicale avec Jethro Tull, le morceau Locomotive Breath. Et puis on se retrouve juste après pour parler d'artisanat astronomique.
Grave.
Thank you. somebody fall. And the all-time winner has got him by the balls. Oh, he picks up Gideon's Bible. Open at page one. I thank God he stole the handle. And the train and watch top. Oh, I know it could slow down. Oh, it could slow down. No, it could slow down. Oh, it could slow down. No, it could slow down. No, it could slow down.
Et rebonjour. Bienvenue dans l'étoile polaire, on est toujours là, l'émission d'astronomie amateur. Et donc dans cette deuxième partie d'émission, on va parler du bricolage du télescope de l'ASSO, un peu hein, qu'on a acheté avec Fred en tout cas, et qui...
Vous avez pu voir peut-être si vous étiez avec nous à Beaumont, éventuellement,
en 2020.
Ah oui, au premier coup alors.
Ouais. Mmh.
Et du coup, on a acheté un télescope à un 300 mm de diamètre. Fait,
ce qui est déjà sympa.
Qui est déjà cool. Hein, ouais, ouais, ouais. Qui fait 1m80 de long.
1m68.
Ah oui, oui, oui. Merci.
1680. Ouais.
Donc un petit 1m70. Et c'est un beau télescope qui est sympa et tout, mais qui est un peu vieux, qui est d'architecture un peu à l'ancienne.
Qui est déjà une construction artisanale.
Oui.
Qui est déjà un truc artisanal. Ouais. Qui fonctionnait pas trop mal, mais certains mouvements, comme c'est une monture Dobson, il y a certains mouvements qui étaient un peu compliqués. Bon, voilà, il était vieux, il avait besoin d'un bon coup de frais.
Je rappelle la monture Dobson.
Il
ouais.
n'y a pas de trépied, voilà. comme on imagine, en dessous du télescope. Oui, les deux axes sont assurés bien, par ouais. une petite socle qui tourne sur lui-même.
Ça marche par frottement, donc c'est vraiment ouais. Un petit dosage de frottement, de poids qui est assez subtil ouais. et...
On prend le télescope ouais. à la main, on monte, ouais. on descend, on tourne.
Ouais.
C'est à assez... l'horizontale, comme un trépied photo finalement.
Ouais. Oui, il y a les deux axes.
Vertical, mmh. voilà.
Et donc on avait cet engin 300 mm de diamètre, 1680 mm de longueur, et qui était très lourd.
Oui,
franchement, même à deux, tu galérais.
Il était blanc, c'était un peu un chauffe-eau.
Ouais.
Est-ce qu'il ne l'avait pas fait dans un chauffe-eau, l'ancien propriétaire ouais.
Et du coup, difficile à utiliser en fait, comme on est dans des endroits où on ne peut pas juste sortir le télescope devant chez nous et observer, c'est pas évident. Mmh. On avait besoin de le rendre plus transportable.
Mmh. Plus fonctionnel.
Plus fonctionnel.
Ouais, qu'il puisse s'assembler à une seule personne.
Voilà. Que au lieu d'avoir un gros truc qui pèse super lourd, bah, y a plein de petites choses un peu moins lourdes.
Oui, parce que du coup, la décision, c'était de le trancher en deux.
Oui, alors au début, moi, je venais juste pour le nettoyer et lui refaire une petite beauté. Oui,
voilà.
Et Rémi, t'es quand même ferronnier, mécanique.
Ouais.
Ah, il connaît un peu la précision, on va dire.
Puis bon, un peu d'outillage, un peu de tout ça.
Ouais. Donc je venais juste pour le nettoyer, lui faire un coup de frais, et je lui dis voilà, c'est vrai qu'il est galère à transporter, machin. J'avais galéré pour l'emmener d'ailleurs. Axel, ouais. tu m'as vu passer.
J'ai cru que c'était un char qui arrivait de Russie, ouais, avec un gros canon dans le coffre.
On était contents de décharger tout ça. Ouais. Ouais. Ouais, c'est toujours une histoire.
Ouais. Et du coup, Rémi, il me dit bah si, on peut le transformer en serrurier.
En montage serrurier.
Donc, montage serrurier, c'est au lieu d'avoir un énorme tube, eh ben, on n'a que deux petits tubes en haut, en bas. Et entre, on a des petits tubes en ferraille.
Des barres.
Ouais, des barres qui reprennent la longueur. En ouais, fait.
Qui refont la structure.
Exactement.
Ouais. Ouais. Et donc on s'est lancé là-dedans, parce qu'on a bien bricolé quand même, et que Rémi a plein de matos, c'est cool. Et on s'est lancé dans la transformation du coup d'un télescope de ce type, de 300 mm de diamètre, en voilà, la même chose, hein, mais en démontable et transportable et plus facilement utilisable.
Mmh. Donc, c'était quoi les étapes? D'abord, alors, beaucoup de mesures, j'imagine.
Alors, au début, au moins une mesure de longueur.
Voilà.
Parce qu'il faut respecter dans la structure finale la longueur, ce qu'on appelle la focale, voilà. L'écartement entre les deux miroirs.
Pas perdre le point focal, ouais. C'est-à-dire que, voilà. Qu'avec la course du porte-oculaire, on puisse faire la mise au point. Quoi.
Voilà, ouais, le truc qui bouge en bas en haut.
En fait, le miroir en bas du télescope a une forme pour renvoyer l'image en un point précis. Et si on est un peu avant, un peu après, on ne peut plus faire de mise au point. On a toujours des images floues.
Donc ça, c'était le truc à respecter.
Ouais. Voilà, là. Et puis aussi analyser voilà, comment était faite la construction de base, quelle matière c'était aussi.
Ouais.
Le mouvement vertical, du coup, il fonctionnait sur un axe charnière, quoi.
Ouais.
Il était au milieu, à peu
près.
Ouais,
au milieu, donc
pas tout à fait. Parce que
c'était deux sortes de roues sur le côté du télescope,
voilà, des bris,
posées sur des demi-cercles.
Voilà.
Ouais.
Et du coup, il y avait un centre de gravité qui était donné, donc on savait qu'en...
En enlevant du poids.
En enlevant du poids, en
abaissant... En modifiant le poids, quoi.
Cet axe de rotation, il allait falloir compenser, quoi, ce centre de gravité. Bon.
Ouais.
Oui.
Bon, donc, on a commencé par le couper en deux.
En trois parties.
Une chute, et les deux miroirs.
Et avant, on a marqué aussi le...
On a bien repéré.
On a fait une ligne, plusieurs traits qui montraient que chaque partie du tube était en face l'une par rapport à l'autre. Quoi.
Okay.
Oui, on l'a remonté. En fait, on l'a remonté à l'identique.
Voilà.
Mais avec des barres démontables.
On est bien le porte-oculaire dans cette position-là pour être au bon endroit pour observer. Quoi.
Et donc,
je me demande si ça change. S'il y a une rotation de la cage du secondaire par rapport au reste, je crois que j'ai déjà monté le mien à l'envers sans faire exprès et qu'on peut observer quand même.
Ah oui, ça marche, bien sûr.
Parce que c'est le miroir secondaire est à 45 degrés. Par rapport à la course de la lumière.
Mmh.
Après, peu importe
ouais.
où il est aligné lui-même avec le porte-oculaire.
Normalement, ça marche.
Je pense que ça marche, mais vous êtes très bien.
Là, le porte-oculaire, il est, à 45 degrés sur le tube. C'est-à-dire quand on a le tube
à 90.
Dans les bras... Mmh. Non, il est à 45, celui-là.
Ouais.
Toi, le tien est à 90.
Mmh. Ok.
Et lui, il est un petit peu relevé. Voilà, dans la
en
pratique,
tout cas, ça fonctionnait bien comme
bien,
ça.
Du coup, on est reparti un peu sur.
Après, je sais pas si c'était très judicieux parce que, du coup, comme on est plus haut, comme on a dû modifier le socle aussi.
Ah oui, je l'ai vu. J'allais vous demander.
ouais, on a abaissé le point de pivot en fait.
On l'a coupé aussi, ça l'a allégé. Hein,
Au total, je pense qu'il est plus lourd qu'avant. Mais comme il est démontable. C'est peut-être plus facile.
Ça fait plusieurs petites parties. Ouais.
Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières ?
Eh ben, être précis, parce que c'est vraiment difficile. Il faut prendre le
temps.
C'est
au millimètre
On voulait dire qu'on était au centième, mais peut-être la prochaine fois on sera au dixième. Mais là, non, on était au millimètre. Ouais. Et puis on est parti d'un tube qui, quand on a pris la mesure de longueur, on avait un millimètre et demi de différence.
Oui, déjà, il y avait un peu de marge.
Où on prenait la mesure. Donc après,
sur toute la circonférence du tube, il y avait des écarts.
Après, avec l'écarage, de la trigonométrie, tout ça, on a fait un traçage de découpe, qui était ce qu'il était. Après, on l'a retravaillé. Voilà. Mais du coup, cette recherche de précision, on l'a menée du début à la fin. Et ma foi, c'est pas trop mal tombé, mais c'est vrai qu'on était déjà dans un truc un peu imprécis, quoi. Voilà.
Oui.
Donc il a fallu formuler avec.
Oui, c'était déjà de l'artisanal, on le rappelle.
Ouais, et puis une fois qu'on a eu coupé les... et qu'on a isolé ces deux parties
Si je reprends un peu, on a coupé l'arrière du tube où il y a le miroir principal, le miroir primaire, qu'on a gardé 50 cm.
Mm-hmm.
Et en haut, on a gardé un peu moins, peut-être 40 cm. Et toute la partie du milieu, qui fait un petit mètre, là, on l'a enlevé.
Mm.
Et donc là, on a dû fixer des petites pattes de fixation sur 4 points.
Des petits supports.
Des petits supports. On a démonté la partie pivot. Qui était un espèce de carré qui s'emboîtait dans le cercle, le tube du télescope. Ça, on l'a descendu en partie basse. Et on a gardé la même structure, mais on l'a descendu en partie basse.
On a repercé le tube.
On a tout repercé.
Refixé cette pièce.
Ouais, tout refixé. On a mis des équerres là-dessus, sur ce cube-là, pour fixer les barres, là, les tubes qui viennent reprendre le miroir secondaire et l'oculaire là où on observe. Mm-hmm. Et donc on a mis 8 barres en V là, ouais, sur dans chaque
acier, ouais,
8 barres acier.
20 mm à peu près. Ouais.
Ouais. Il y a 8 barres qui partent d'un point en bas et qui se doublent ou l'inverse.
Ça triangule.
Ouais. Ça triangule, ah ouais, voilà.
On a 4 triangles. Mm-hmm. Comme un carré inscrit dans un cercle. Ouais.
Et du coup, c'est hyper rigide. En fait, on a retrouvé la rigidité par ce biais-là. On aurait pu alléger et faire 3 points d'accroche. Mm-hmm. On aurait eu 6 barres.
Ouais.
Bon, on a...
Il y a même, j'ai vu des Dobson monobras.
Ah ouais.
Il y a un seul bras qui tient le cage du secondaire. Et pas des petits, en plus, j'ai vu un 600 monobras.
Ah, ouais. Ah, mais je crois qu'il y a des... Tu m'avais montré, Rémi, des trucs très, très épurés, vraiment... Comme tu dis, ouais, 4 barres.
Peu de barres en carbone ou quoi, hyper fin. Mais ouais. C'est vrai qu'après, il existe même des 3 barres droites, télescopiques. La gamme Flex Tube.
Ouais.
Là,
oui, c'est 3 barres. Ouais.
Bon, voilà, nous, c'était un peu notre première expérience de modification. Hein, on n'est même pas encore dans de la conception. Mais, C'était intéressant de se retrouver devant le télescope avec une disqueuse. Là.
c'est bon, qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'on est sûr de nous? Voilà, ouais.
Donc c'est beaucoup de mesures, de réflexions, d'action aussi. Hein. Il y a beaucoup de phases de bricolage. Après, on a fait ça avec nos moyens du bord. Hein. On a un mètre, un réglet, une perceuse à colonne, une disqueuse.
Ouais, un petit tire-ruban pour le métal.
Un petit tire-ruban, ouais.
Voilà, on a coupé des bouts de métal. On les a percés.
Ouais. C'est des mesures à l'œil. Ouais. Pas croire que c'est, on a rien de ultra précis, hein. Mais on tombe au millimètre, hein, avec ça. Hein.
Ouais, on est bien.
Et ouais,
puis, puis au final, quand on a mis le laser pour régler les miroirs, ouais, pour faire la collimation, on
était, ça tombait quoi. Ouais.
Ouais, on était un tout petit peu à côté du centre, 3-4 cm par rapport à tout ce qu'on lui avait mis.
Bon. Oui, ça, il était presque collimaté.
Voilà,
bravo.
Il n'était pas si loin. Et on a pu observer.
Oui, alors qu'est-ce qu'il donne ?
Alors, on arrive à le finir, on est trop content, à l'équilibrer, parce qu'il y a aussi toute cette histoire d'équilibrage, comme on a complètement changé
le
point de bascule, centre de gravité. Du coup, après, il faut retrouver un centre de gravité, donc là, il est beaucoup plus bas qu'avant.
Il faut mettre des contrepoids.
Au bas du télescope, du coup, voilà, on a réfléchi beaucoup au frottement, parce que c'est important aussi, plus on le freine et plus il peut... Plus il peut s'arrêter, mais pas trop non plus.
Il faut le compromis entre la manipulation et le frein.
Ouais. Donc ça reste quand même un truc lourd. Hein. On a mis des contrepoids, on avait mis une barre qui rallonge derrière en plus, qui va un peu plus loin en bas, avec des poids. Donc les poids, c'est des haltères.
Des poids d'haltères.
Les disques d'haltères. Voilà, il faut trouver le bon dosage avec tout ça. Et même le frottement, voilà, on a mis des surfaces qui accrochent. Plus
mais
ou moins.
Pas trop.
Sur l'embase, on a mis de la feutrine, comme on met sous les pieds de chaise ou quoi. Là.
Ah oui, ok.
Genre de velours synthétique.
Ouais.
Là.
Ouais, voilà.
Ça marche très bien.
Ça, c'est sympa.
L'horizontal,
ça
marche bien.
Ça frotte sur une surface qui est en résine époxy, sur du bois, très lisse. Et après, on a mis des sortes de revêtements un peu téflonnés, adhésifs.
Plastique, un peu.
Où là, ça frotte un peu plastique contre plastique, quoi.
Ouais. Et là, quand on a coupé l'embase du télescope, on a remis une plaque, du coup, parce que la plaque d'avant, elle était inutilisable. Et ça, c'est un bout de meuble blanc, là, en bois.
En contreplaqué ?
Non, même pas.
On a continué sur de l'aglo.
Ouais,
le reste du bois était en aglo.
Les meubles.
Les résinés. Hein.
Bois aglo et un revêtement blanc dessus, là.
Et un bon aglo de la recyclerie de Dix.
Ouais, merci à eux. C'est clair. Voilà, on fait avec ce qu'on a et ça marche.
Ouais.
Ça marche, ça glisse bien et tout, c'est nickel.
Ouais, c'est super, c'est un 300. Quoi. L'autre fois, on a pu, les peu d'essais qu'on a fait, c'était à peine couvert. Donc,
oui, du coup, on est sorti, on se dit, on va l'essayer. Ah, tout est voilé, tout est bâché. Enfin, putain, bon, s'il y a Antares qui est apparu un peu.
Ouais, on a regardé un coup Vega, Arturix, Antares. On s'est aperçu qu'on ne pouvait pas le descendre autant qu'on voulait. Changer l'encombrement.
Et des vis qui dépassent. Et qui...
Voilà. À peaufiner, mais du coup, il sera avec nous pour le
23 juillet.
Ouais, le 2 et le 23 juillet.
Ouais.
Il sera avec nous lors des soirées, ouais.
Cool.
En tout cas, c'était une super expérience, j'adorais ça. Et aussi ouais, de se dire que c'est modifiable, en fait, que c'est pas de la précision voilà, impossible à reproduire.
C'est carrément... c'est ce que j'allais demander. Est-ce que vous avez trouvé ça quand même accessible
Oui, complètement.
À des débutants, on peut le dire.
À des bricoleurs avertis.
Oui, voilà, quand même.
Ouais, le plus compliqué pour moi, c'était d'implanter les 8 tubes fins qui refont la structure.
Ouais.
C'est-à-dire que si on mettait des pattes, 4 pattes de fixation en haut, 4 pattes de fixation en bas, on avait des angles un peu spéciaux. Quoi. Donc on a essayé de simplifier en partant du carré qui était enfilé autour du tube, là, qui sert au mouvement. Et de là, on est retombé sur des liaisons de tubes qui était sur plan, quoi, qui était plan, quoi.
Qui était, ouais, sur le même plan.
Le même plan, ouais.
Ouais, du coup, il n'y avait pas d'angle. Voilà.
Ouais, les difficultés, bah, un peu, c'était le tube rond, faire des fentes parallèles, des trous l'un en face de l'autre, des choses comme ça. Mais,
Le rond, ouais, c'est moins évident que le carré.
Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais.
Mais bon, c'était sympa de le faire en rond. Parce que du coup, on finit
de la gueule, quoi.
Par tenir aussi ces tubes structurels dans la main pour faire les mouvements, quoi.
Ouais. Ouais.
Donc, c'est toujours plus agréable d'avoir du tube rond, du carré, quoi. Mais les étoiles sont bien rondes en tout cas.
Ouais, parfait.
Dans l'oculaire.
J'ai hâte d'observer avec.
En tout cas, oui, voilà, c'est accessible.
Est-ce que ça vous a donné envie d'aller plus loin avec d'autres instruments, peut-être une conception
Ah, bah carrément,
ouais, j'aimerais bien. Ouais. Puis c'est aussi le moyen d'acquérir un gros diamètre à moindre coût. Quoi.
Ouais, ouais. Ouais.
C'est-à-dire quand on voit le prix des instruments de gros diamètre.
Oui, si on n'achète que des miroirs.
Et oui, là, il y a toute la partie aussi qu'on a fait, c'est de nettoyage des miroirs. Donc ça, c'est une petite opération.
Ouais, un entretien courant. Enfin, pas...
Ouais, une fois par an ou deux.
Ouais, c'est ça.
C'est bien de faire ça si on veut une belle image. Il y a toujours de la poussière, des trucs qui viennent se foutre dedans.
Ouais, c'est toujours bien de trouver un miroir.
Et donc la technique, c'est
alors
de...
Comment ça se nettoie un miroir? Parce que c'est pas comme un miroir de salle de bain.
Alors, un miroir de télescope, ça fait 3 cm d'épaisseur, en gros. En tout cas, celui-là.
Ouais, celui-là, il est assez fin, mais...
Celui-là,
ouais,
il est fin.
Ouais.
Entre 3 et 5, en gros, pour ces 350 de diamètre. Et moi, j'avais jamais fait, hein, j'ai appris en même temps. C'est de le tremper dans de l'eau un peu chaude dans une bassine. Mettre un
savonneuse un peu
un petit peu de produit de vaisselle
c'est ça le produit vaisselle
pour dégraisser quoi
frotter
à la main gentiment dessus mais vraiment
délicatement avec les doigts
et tout en immersion
en immersion
après avoir
le laisser tremper
avec les impuretés déjà se décolle un peu naturellement faire tourner le miroir dans l'eau déjà que s'évacue puis après on peut y mettre la peau, voir du coton coton vrac comme on dit là qui est vraiment pas pour avoir toutes les chances de pas rayer le miroir quoi.
C'est ça,
c'est le grand risque. C'est ce qui m'a surpris, c'est que c'est effectivement un miroir, c'est du verre mais dessus il y a un revêtement aluminium
Une couche d'alumine qui est appliqué après le polissage du verre quoi. Après la mise en forme de
la
du courbure.
Ouais.
Après, on coule de l'aluminium et après, qui est à polir de nouveau. Quoi.
Ah ouais.
Pour arriver
plus délicatement,
à une brillance. Quoi. Comme on polie, par exemple, avec une pièce de monnaie, si on la polie, elle peut devenir réfléchissante. Quoi.
Ah ouais. Oui, elle brille.
Tellement on va frotter dessus.
Ouais, avec on peut faire miroir.
Du fin, comme les bijoux, tout ça, c'est ce genre de polissage. Ouais.
Donc on a lavé le miroir primaire, le gros, le miroir secondaire, le petit, tout, même le viseur. Voilà, on a fait...
Réviser un peu le porte-oculaire.
Ouais, on a essayé de... C'est pareil, c'est à l'ancienne, mais ça marche.
C'est à pas long.
C'est un pas de vis, c'est un gros pas de vis, genre c'est du 32 mm et ça tourne dans un... Voilà, c'est une vis, quoi. Et il y avait un peu de jeu dedans, on a essayé de mettre du téflon, mais dès qu'on met une épaisseur, ça marche plus.
C'est des porte-oculaires hélicoïdales, sur des gros télescopes, des fois, pour gagner du poids, c'est le cas, quoi.
C'est vrai qu'il est tout simple.
Ouais, c'est bien.
Et dedans, on vient enfiler un tube, on l'étonne. Et la mise au point, au final, elle est plus facile en bougeant le tube de manière autonome par rapport au porte oculaire que de tourner la molette. Ça, on le fait après pour la finesse. Quoi.
Ouais, la précision.
Ouais. Ouais. Mais c'est efficace comme truc, je trouve. C'est pas...
Okay.
En tout cas, ça marche. Voilà. Ouais, donc c'était une belle expérience que voilà. Si bricoler un télescope, eh ben, ça se fait en atelier, à dit, avec deux, trois outils, on y arrive.
Ouais, c'est chouette. Puis il y a pas mal de gens finalement qui ont entrepris de faire ça sur des tubes pleins, quoi, qui sont intransportables. Quoi. À partir de 250, 300 mm, c'est... tout seul, c'est juste pas possible. Puis c'est dangereux parce que si on le fait tomber ou quoi.
Bon, ouais, on l'abîme. Voilà,
l'abîme, il y a le miroir, tout ça. Mais c'est vrai que ça donne envie, ouais, une conception, partir d'un miroir, ou même partir à polir un miroir. Il y en a qui se lancent là-dedans, quoi.
Mmh.
C'est des milliers d'heures pour creuser le verre, pour polir l'alumine, tout ça. Et puis il y a toute la structure menuiserie, quoi, qui va être autour de ça. Et il y a des fabricants, hein, qui proposent des structures artisanales qui sont magnifiques, hein. Des mélanges de bois, d'aluminium, de carbone.
Ouais, ouais.
Très léger. Hein. Il y a un 400 qui peut peser 20 kilos, quoi. Tout est pour tout. Non, c'est, ouais, moi, ça m'a bien donné envie.
Ouais, en fait, il y a plein de techniques. Il y a plein d'amateurs qui sont passés par là. Ouais. Et vraiment...
Puis il y a des constructions artisanales en Dobson ou aussi en astrographe, quoi, pour faire des photos.
Ok.
Voilà, il y a aussi des gens qui construisent des montures motorisées de manière artisanale. Il y a des gens qui construisent leur observatoire. Enfin, il y a tout un,
y a aussi des
un
coupoles,
aspect manuel,
ouais, quoi, ouais.
Qui est intéressant autour de l'astronomie amateur.
C'est ça que j'adore dans l'astronomie, c'est que ça touche vraiment tous les domaines presque, j'allais dire, de science, de même manuel, là, pour le coup. Comme moi, je suis plutôt manuel, ça me parle et c'est chouette. C'est vraiment une science. C'était la seule science, ça, non ?
On disait que c'est la mère des sciences parfois.
Ouais.
Puis la plus ancienne, on dit. Que c'est tout... à la fois complet et incomplet. Quoi.
Donc voilà, ça s'intéresse à tous les domaines, beaucoup.
Bah, super.
Voilà.
Merci les gars. Et puis là, on rappelle alors pour venir découvrir ce chef-d'œuvre. C'est le 23 juillet à Marignac ou le 2 juillet sur inscription pour apprendre à vous servir de votre télescope ou découvrir le télescope.
Voilà.
Et venez nous
on se retrouve dans l'été à l'antenne, peut-être. C'est vrai, on ne s'est pas dit si on faisait une pause cet été ou si on continue les émissions, mais en tout cas, toutes nos émissions sont écoutables et réécoutables sur le site rdwa.fr. Où vous pourrez aussi découvrir les photos de Rémi, les astrophotos.
Ah oui.
C'est tout. On vous dit bonne journée.
Merci. Bonne journée.
Au revoir.